North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen.
À l'instant, la voix de Donald Trump. En juillet 2017, il menace la Corée du Nord de répondre à ses provocations par le feu et la fureur, je cite, comme jamais le monde n'a connu. Dans votre essai, Jean-Pierre Dupuis, c'est aussi par les mots de Trump que tout commence, mais cette fois une déclaration de 1990. Il est alors puissant homme d'affaires et regrette que le sujet de la catastrophe d'une possible guerre nucléaire ne soit pas davantage au cœur des préoccupations. Sage remarque, notez-vous, mais vous le présentez quelques années plus tard et désormais président de la plus grande puissance mondiale comme un irresponsable gamin de 9 ans qui tiendrait dans ses mains le joystick nucléaire et jouerait, notamment avec le président de la Corée du Nord, à celui qui urine le plus loin. En revenant sur les fondements de la dissuasion nucléaire, la théorie du MAD, Mutually Assured Destruction, vous ne manquez pas de rappeler que MAD signifie aussi fou en anglais et qu'en matière nucléaire, tout est basé sur la rationalité des parties en présence. Avec cet essai, Jean-Pierre Dupuis, vous poursuivez en philosophe l'exposition et l'exploration de votre catastrophisme éclairé. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
Pas facile à dire, catastrophisme éclairé. La guerre qui ne peut pas avoir lieu, c'est le titre de votre livre. Il est paru aux éditions Des Clés de Brouwer.
We will announce when the threat has ended. This is not a drill. Take immediate action measures. Repeat. The US Pacific Command has detected a missile threat to Hawaii. A missile may impact on land or sea within minutes.
There's a ballistic missile heading toward here, toward Hawaii. So I don't know if you guys have heard. Has anybody got any information out there?
If you're watching this video, that means I didn't make it.
C'est glaçant et vous froncez les sourcils, Jean-Pierre Dupuis. Mais c'est pas une fiction. Hawaï, 13 janvier 2018, la totalité des téléphones et des radios vibrent à cette annonce. Il va y avoir une attaque, ce n'est pas un exercice. Prenez les dispositions nécessaires. Pourquoi cet exemple d'alerte nucléaire ouvre votre essai et pourquoi est-il, selon vous, représentatif de notre rapport avec la menace nucléaire aujourd'hui?
Il est représentatif de ce que j'essaye de dire dans le livre de plusieurs manières, mais la plus évidente, je dirais, c'est que c'était un moment de très très grande peur, pour ne pas dire panique, sur place, mais aussi, j'étais non pas à Hawaï, mais j'étais en Californie, sur le continent américain. Mais c'est représentatif parce que tout le monde s'en fiche, tout simplement. Tout le monde s'en fiche. Je pense même que les Hawaïens, j'ai pas fait d'enquête, bien évidemment, qui ont vécu ces 38 minutes de très très grande peur, puisque on annonçait donc que des missiles d'une provenance inconnue, bien sûr, arrivaient sur l'archipel. Je parierais que beaucoup ont oublié. Enfin, ils ont eu très peur pendant 38 minutes. Et puis voilà. Donc c'est au fond le principal thème de ce livre, l'un des principaux thèmes, c'est que on parle de plus en plus de catastrophes aujourd'hui. Alors, je n'ai pas peur, enfin, j'ai la vanité de dire que j'étais un précurseur quand même. Et on se moquait de moi il y a 20 ans, avec ce livre pour un catastrophisme éclairé. Il y a eu des tas de livres anti-catastrophistes, etc. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent des collapsologues, collapsologie, des effondrologues, bon, etc. Et de quoi parle-t-il? Et il parle de tas de menaces qui existent et qui sont à prendre très au sérieux. Le changement climatique, la destruction de l'environnement, les technologies avancées comme les nano, bio, etc., devenues folles, etc. Et il y a une menace qu'ils oublient tous. Et c'est vraiment la menace principale d'une certaine manière, c'est-à-dire la menace nucléaire, c'est-à-dire la perspective d'une guerre nucléaire. Alors pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas au sérieux cette
menace? Écrivez même « le peuple s'ennuie ».
Oui, exactement. Alors pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas au sérieux? C'est ça la principale question que je me pose. Car c'est peut-être la plus importante, enfin beaucoup de gens disent que c'est la plus importante, aux États-Unis. Je vis une grande partie de l'année aux États-Unis et donc c'est malgré tout mon terrain d'observation. Bon, eh bien parce que les gens raisonnent ainsi, une arme aussi destructrice, personne ne peut vouloir l'utiliser. Bon, c'est ce que la citation de Trump que vous faisiez là au début dit, mais dit en disant alors je ne vais pas le dire, je ne vais pas utiliser le mot qu'il utilise, bullshit, je peux le dire en anglais, c'est une très grande bêtise, bon, une connerie, allez, on peut le dire. C'est une connerie de penser que parce que là, cette arme est très destructrice, personne ne va l'utiliser.
Il le dit en 1990.
Évidemment. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la sénilité, mais enfin, ça, c'est pas un autre sujet, mais enfin, c'est peut-être adventiste. C'est la sénilité qui le fait agir. Mais il n'a pas été idiot toute sa vie. Bon, ça, c'est certain. Donc, les gens imaginent que, et ils ont raison d'une certaine manière, que personne ne veut la guerre. Khrushchev et Kennedy, pendant la crise des missiles de Cuba, ne voulaient pas la guerre. Kim et le Nord-Coréen et Trump ne veulent pas la guerre. Bon, donc il n'y a pas à s'en faire. Mais c'est que tout le monde oublie ceci, c'est que s'il y a une guerre nucléaire, elle ne sera pas le résultat de la volonté des hommes, n'importe qui, ce sera le résultat d'un accident. Et le plus bel exemple, c'est pourquoi je commence, et c'est comme ça que je réponds à votre question, je commence par cette grande panique de Hawaï en janvier donc de l'an dernier. Ça a été une fausse alerte.
Qui disait n'en être précisément pas une.
Bon, alors c'était une fausse alerte. Mais la leçon à tirer de cela, c'est qu'il n'y a plus de différence entre les fausses alertes et les alertes vraies. Et ça, ça fait très peur, très peur. Et c'est au cœur même du sujet. Pourquoi ? C'est un civil qui s'est trompé, hein, qui a appuyé sur le mauvais bouton, qui a regardé une mauvaise vidéo et a cru vraiment que c'était une attaque... de missiles venant d'on ne savait tout. Et il a transmis ce message, créant cette panique. C'était un civil. Supposez que ce eût été un militaire. Qu'est-ce qui se serait passé? La technique américaine, dans ces cas-là, et ceci n'est pas assez connu, elle a reçu un nom, en anglais ça donne « launch on warning », ce qui veut dire on lance ses propres missiles dès lors que les détecteurs d'une attaque disent qu'il y a une attaque. Bon. Mais évidemment, ces détecteurs peuvent se tromper. Et là, c'était autre chose, c'était une fausse information. Mais la leçon qu'a tirée quelqu'un avec qui je travaille à Stanford, qui est un de mes collègues de Stanford, William Perry, mais qui fut le secrétaire à la défense du président Clinton, c'est qu'il n'y a plus à faire la différence entre les fausses alertes et les vraies alertes aujourd'hui. Il faut toutes les prendre au sérieux. Pourquoi ? Si c'est une fausse alerte, comme c'était le cas, mais là c'était des civils, donc des militaires, ils lancent leurs missiles tout de suite. Alors pourquoi ? Pour deux raisons. Pour une cible, mais la cible, là on ne savait pas ce que c'était, d'où venaient les missiles. Mais l'autre raison, la principale, c'est que pour ses propres missiles ne soient pas détruits. N'est-ce pas ? Donc on lance ses propres missiles dès que les systèmes de détection d'attaques ennemies disent « attention, il y a une alerte
bon. ». Et c'est pourquoi il faut qu'on revienne avec vous, Jean-Pierre Dupuis, à tout le travail que vous faites de réexposition des fondements du principe de dissuasion nucléaire, et notamment ce sigle anglais « Mutual Assured Destruction ». Pour commencer, il faut dire, Jean-Pierre Dupuis, que ce principe-là, il est basé, il se détermine par son propre échec. On ne parle pas de dissuasion nucléaire, en anglais on parle d'une destruction assurée mutuellement dès lors qu'on engage quelque chose. Alors, peut-être dire comment naît cette théorie du MAD.
Alors, il faut la dissuasion. Bon, c'est une des dimensions de la situation nucléaire, mais il y en a deux autres. C'est la défense et l'attaque. Bon, avec des armes dites conventionnelles, c'est-à-dire des armes ordinaires, on connaît l'attaque et la défense. Et aujourd'hui, ce qui fait la légitimité des forces armées conventionnelles, c'est précisément d'être des armes de défense. Hein. Le ministère qui s'appelle aujourd'hui ministère de la Défense s'appelait autrefois ministère de la Guerre et puis ministère des Armées. Maintenant, c'est le ministère aux États-Unis, le secrétaire comme William Perry, c'est le secrétaire à la Défense. Bon, ok. Il est impossible de se défendre contre une attaque nucléaire. Totalement impossible. C'est la fameuse guerre des étoiles qu'a lancée Ronald Reagan en 1983. Cette idée qu'on peut avoir une batterie de missiles antimissiles qui liquide les missiles ennemis avant qu'ils atteignent leur cible. Bon, on sait aujourd'hui que ça ne marche pas, mais c'est plus grave que ça. Pour que ça marche, il faudrait que ça marche à 100%. car la moindre erreur, c'est-à-dire le moindre missile ennemi qui passerait au travers, ce serait le missile de trop, bien évidemment. Mais dans l'industrie en général, un taux de réussite de 100%, ça n'existe pas. Bon. Donc la défense, éliminée. Il y a l'attaque, j'en parlerai en dernier, et la dissuasion, justement. Avec des armes conventionnelles, la dissuasion, c'est tout simplement d'être plus fort que l'autre. Si on a une armée plus forte que celle de l'autre, ça dissuade l'autre d'attaquer.
Bon. Sur le papier.
Sur le papier, bien évidemment. Sur le papier, bien sûr. Il y a toujours des fous. Bon. Mais la dissuasion nucléaire, c'est tout autre chose. C'est des représailles, une menace de représailles. Ce sont des mots. Si tu fais un pas en avant, a fortiori si tu m'attaques avec des bombes nucléaires, eh bien, tu vas prendre une frappe que tu regretteras toute ta vie. Enfin, tu pourras même pas la regretter car tu seras mort. C'est-à-dire que la riposte sera incommensurable avec l'attaque. Bon, ce qui montre entre parenthèses que la dissuasion viole d'emblée l'un des principes de la guerre juste, à savoir le principe de proportionnalité. Là, on est dans la démesure annoncée. Hein. Mais la dissuasion, les philosophes qui ont réfléchi à ce système donc de défense n'ont jamais compris comment ça pouvait marcher. Pourquoi ? Parce que, je suis le patron d'une des puissances nucléaires, d'une des deux puissances nucléaires, face à face. Mon territoire a reçu une attaque et il est détruit au tiers, disons. J'ai menacé l'autre pour le dissuader des pires dégâts. Bon, mais il a passé outre. Il est passé outre. Bon. Est-ce que je vais mettre à exécution ma menace maintenant que je réalise qu'elle n'a pas marché, qu'elle n'a pas dissuadé, alors que je sais très bien que si je mets à exécution cette menace, ce sera un suicide?
Et que j'éradique l'humanité, vous rappelez.
Et j'éradique l'humanité, mais dont moi-même.
Dont moi-même. Évidemment.
Bon, on peut imaginer un fou pour qui éradiquer l'humanité ne serait pas... Mais c'est un suicide, bon, voilà.
Vous rappelez donc, Jean-Pierre Dupuis, que dans ses mémoires, Valéry Giscard d'Estaing raconte ce qui, a priori, il n'aurait pas dû faire, hein, mais raconte un exercice où on le met dans un cas d'école et on lui demande est-ce que oui ou non vous appuyez sur le bouton. Oui. Et il dit non, je ne le fais pas.
Bien sûr. Je ne veux pas détruire mon pays. Je crois que l'état-major ne lui a jamais pardonné. Hein. Bon.
Mais pourquoi en fait il ne pardonne pas l'état-major? Parce que précisément, ce que vous dites, c'est que tout repose sur les mots. Et que si la promesse de tirer plus fort que l'autre n'est pas tenable, dans ces cas-là, le mécanisme même de la dissuasion nucléaire tombe à l'eau.
Mais exactement. C'est-à-dire que la dissuasion marche tant qu'elle marche. Bah, c'est une tautologie, mais ce n'est pas vraiment une tautologie. Car dès lors qu'elle ne marche pas, c'est-à-dire que l'autre passe outre, eh bien, tout le système de croyance sur lequel elle reposait s'écroule. Hein? Bon. Mais il y a l'attaque. L'attaque, elle reçoit dans le domaine nucléaire un nom, qui est d'ailleurs une horreur étymologique, la préemption. Mais je sais bien qu'en français, aujourd'hui, on dit préemption. Normalement, la préemption, d'après l'étymologie, c'est acheter avant l'autre. Bon, c'est l'État qui achète, etc. Bon. Mais maintenant, ça veut dire agir avant l'autre. En matière nucléaire, la préemption, ça veut dire que on réagit en attaquant, plutôt on attaque, mais c'est pas on attaque simplement. On attaque en réponse à une attaque qui n'a pas encore eu lieu. Comme si elle avait eu lieu, justement. Et d'ailleurs, si on répond par une première frappe et que l'attaque n'a pas encore eu lieu, ben elle n'aura pas lieu puisque l'ennemi sera mort. Bon. Alors, Le surnom de la préemption est quelque chose qui révèle alors ce qu'est l'essence du problème. C'est, je le dis en anglais, striking second first, c'est-à-dire être le premier à réagir. Mais c'est-à-dire qu'on inverse le temps. On réagit à une attaque qui était imminente, qu'on jugeait imminente, et donc on réagit bien à une attaque. Mais en fait, on attaque le premier en réagissant. Vous voyez? Alors, soyons plus concrets, Bolton, le fou, alors, absolu, qui sert aujourd'hui de conseiller à la sûreté, enfin, peu importe le titre exact, auprès de Trump, avant même qu'il soit nommé à ce poste, il était partisan de préempter les attaques de la Corée du Nord, c'est-à-dire de nuke, on dit en anglais, de détruire par des bombes atomiques la Corée du Nord avant qu'elle agisse. Alors voilà, aucune de ces trois méthodes de faire face à la menace nucléaire ne fonctionne. La défense, parce qu'il est impossible de se protéger à 100%, la dissuasion parce qu'elle est non crédible, les menaces sont non crédibles, et la préemption parce que pour être crédible, lorsqu'on décide de lancer une première attaque, fût-ce en réaction à une attaque de l'autre qui n'a pas encore eu lieu, puisque l'autre va garder, c'est ça qui est le cœur aussi, une capacité de seconde frappe, n'est-ce pas ? Il faut lui montrer à cet autre que même s'il réagit, et il réagira par une pas avec une seconde frappe, on résistera à cette attaque.
Alors comment, Jean-Pierre Dupuis, vous regardez les récentes négociations la semaine dernière qu'on dit avoir échoué entre Kim Jong-un et Donald Trump? Comment est-ce que vous écoutez ces discussions? Puisque vous dites finalement, en termes de dissuasion nucléaire aujourd'hui en 2019, il faut se baser sur des mots. Ce sont les mots que nous nous échangeons qui valent pour certitude ou incertitude, oui, du lâchage de la bombe nucléaire.
Oui,
c'est,
oui,
extraordinairement effrayant.
Oui, et je vais même plus loin, c'est que même s'il y a silence de la part des êtres humains, les armes parlent pour nous. Ce qu'on appelle la dissuasion existentielle.
Par armement et désarmement.
Le simple fait d'arsenaux se faisant face et d'une puissance énorme suffirait en principe à assurer la dissuasion. Bien sûr, ça ne marche pas. Comment est-ce que je réagis ? Ben, j'ai écrit ce livre, j'ai rédigé ce livre parce que je travaille dessus depuis 30 ans, 40 ans. Mais pourquoi je n'ai pas publié avant ? Parce que les événements vont plus vite que mon écriture. Hein. Bon, regardez, l'affaire iranienne n'existait pas il n'y a pas longtemps, etc. Bon, Corée du Nord, ça existe depuis longtemps, mais là, c'est... Alors, l'été 2017, vous l'avez cité, c'était une bordée d'injures des deux côtés. Bon, enfin, c'est même pas la peine de les répéter, c'était même ridicule. La rencontre de Singapour, qui a eu lieu donc en juillet de l'an dernier, juillet 2017. Bon, j'ai eu le temps de lire dans mon livre que je pensais que c'était une farce. J'étais pas le seul, bien évidemment. Ce serait une farce. Tout simplement parce que les mots là, les mêmes mots, avaient des significations totalement différentes dans un cas chez l'un et chez l'autre. Bon, le mot dénucléarisation, du point de vue des Américains, ça signifiait que Kim Jong-un allait se débarrasser de tous ses missiles, de toutes ses bombes, de toutes les installations pour enrichir l'uranium, etc., etc. Bon, aucun expert ne pensait que Kim Jong-un était prêt à cela. Et Kim Jong-un a eu ce qu'il cherchait, à savoir que le dialogue avec la plus importante puissance nucléaire du monde. Il a eu cette reconnaissance. C'est ce qu'il attendait. Aujourd'hui, la Corée du Nord est considérée comme une puissance nucléaire. Bon, Trump n'a rien eu en échange. C'était une farce, et le principal dindon de cette farce, ce fut Trump. Alors, ils se sont fait des mamours, là, hein, vous savez. Bon, ils se sont, après cet injurié, ils se sont... on a vu comment Trump agissait avec notre président à nous. Bon, là, c'était encore mieux, là, bon, avec Kim. Bon, tout ça, c'est une farce. Et l'échec, donc, de la semaine dernière, était complètement annoncé, parce que il bute toujours sur le double sens du mot... J'ai oublié de dire que la dénucléarisation pour la Corée du Nord, ça veut dire tout autre chose. Ça veut dire le départ des États-Unis, de la Corée du Sud, et sans doute aussi du Japon. C'est le fameux parapluie atomique. La force atomique américaine sert de parapluie à la Corée du Sud et au Japon. Bon. Et ce que Kim attend des États-Unis, sous le mot de dénucléarisation, c'est que les États-Unis, ben, cessent d'avoir ce rôle. Mais c'est impensable. Imaginez le Japon sans le parapluie américain, ben, qu'est-ce qu'il fait le Japon? Il se nucléarise. Hein? Donc on aura le Japon, la Corée du Nord, la Chine, bien entendu, derrière, et la Russie qui est pas loin.
Mais Jean-Pierre Dupuis, quand même, à vous écouter, on est obligé de se souvenir que donc Mutually Assured Destruction se sigle avec le MAD, et que MAD veut dire fou en anglais, et qu'on a l'impression que vous décrivez un petit théâtre des fous qui tient le destin de l'humanité entière entre ses mains, et que la question de la rationalité nécessaire à la prise des décisions et à la géopolitique là, elle est bien fragilisée. C'est-à-dire que vous décrivez quand même un monde où tout explose demain et bye bye.
Alors, pas vraiment, parce que vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, ce monde, c'est aussi celui de la rationalité maximale.
Ça n'est que cela. Vous dites que ça repose uniquement là-dessus.
Oui, mais cette rationalité est folle, effectivement. Mais c'est, là, c'est les contraires qui se confondent. Mon livre, et il y a une partie centrale qui est vraiment du raisonnement de philosophie analytique. Enfin, j'espère que c'est quand même clair et compréhensible.
C'est solide,
mais,
même.
Bon, mais c'est, effectivement, c'est très solide. Je dois dire que la plupart du temps, lorsqu'on parle de... parce qu'on ne s'intéresse pas, simplement, lorsqu'on parle de ce risque nucléaire, bon, on se contente de généralité. Enfin, bon, c'est coupable. Donc, j'ai fait un travail d'analyse. Je ne l'ai pas fait seul, bien évidemment. Je dirais des tas de gens. Alors, des tas de gens, entendons-nous. Pas en France. Mais je parle des États-Unis. Et je pense que la même chose, d'ailleurs, doit exister en Russie. Enfin, ça, je ne connais pas la situation russe. Mais aux États-Unis, les philosophes, et certains des philosophes les plus avancés, il y en a un qui s'appelle David K. Lewis, il est mort récemment, on l'appelait le Leibniz du XXe siècle, travaillait de concert avec les stratèges américains. Bon. Donc, en France, on a eu Raymond Aron. Mais Raymond Aron, c'était la philosophie allemande. Et c'était un rationaliste qui ne voyait pas la folie de tout cela. Il voyait la rationalité, mais pas la folie.
Parce que vous allez presque vous plonger, si je peux me permettre cette formule-là, dans une forme de folie de la rationalité, en utilisant quasiment des équations, et pour essayer de comprendre combien, finalement, essayer de répondre à l'efficacité de la dissuasion nucléaire, j'utilise votre expression, est une humiliation pour la raison. Vous allez très très loin, Jean-Pierre Dupuis.
Oui.
C'est un casse-tête mental, cette affaire.
Oui, absolument. C'est-à-dire que je suis né en aimant les paradoxes. Bon, alors là, je suis servi.
Franchement, là, vous êtes super.
Oui, là, je suis servi, mais c'est pas moi qui les invente, ces paradoxes. Hein. Ils sont là, ils font partie de la réalité. C'est pas des paradoxes au sens qu'une pensée inachevée, etc., qui buterait. Non, les paradoxes sont au cœur même de cette réalité. Bon, il n'y a pas d'équation. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de la logique. Il y a de la logique. La principale discipline ici, c'est la logique. Mais la logique, je veux dire, c'est accessible à tout le monde.
J'ai failli vous présenter philosophe et logisticien.
Oui, et logicien. Oui, mais c'est ce que je suis. Je suis passé, moi, dans ma formation des mathématiques et de la logique à la philosophie. C'est un saut beaucoup moins important que de passer, par exemple, des sciences expérimentales ou même de la physique à la philosophie. Bon, on est dans le concept, tout simplement. C'est un livre de concept. Mais il faut s'y mettre, je veux dire. C'est ça qui... Mon pari, là, c'est que... j'ai pas de solution. Hein. Je ne propose pas de solution.
Mais que c'est l'heure ou jamais d'y penser.
Oui. C'est-à-dire, je pense que la pensée, la compréhension, aide malgré tout à quoi ? Bon. À éviter le pire. Alors, remarquez, l'objet de mon livre n'est pas de prévoir le pire. C'est pas un livre de prévision. Je cite bien sûr des prévisions. Hein, et ces prévisions sont vraiment font peur. Hein. Et certains de mes collègues de Stanford en particulier, qui sont parmi les meilleurs théoriciens de la chose nucléaire. Bon, elles font très peur, ces prévisions. Mon but est autre, c'est de juger au plan de la rationalité, on vient d'en parler, et aussi de l'éthique la chose nucléaire. Bon. Et je crois que j'aboutis à quelque chose qui n'est pas du tout du catastrophisme, ni pessimiste, ni optimiste, mais à une proposition très très forte. C'est que tout État-nation qui possède l'arme nucléaire, même s'il ne l'utilise pas, en principe, elle est faite pour ne pas l'utiliser, est un État criminel. Et criminel, plus précisément, au sens de le crime contre l'humanité. Et je rappelle que le crime contre l'humanité a été défini par un certain nombre de nations, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, le 8 août 1945. Hiroshima, c'était le 6 août. Nagasaki, le lendemain, le 9 août. Bon, c'est quand même un contexte assez extraordinaire, je veux dire. L'ironie de l'histoire, là, est quand même inouïe. Hein. C'est que les gens qui ont inventé ce concept de crime contre l'humanité ne voyaient pas, à commencer par les Américains, que ce qu'ils venaient de faire ou ce qu'ils allaient faire était précisément un crime caractérisé contre l'humanité. Bon, voilà. C'est une proposition très forte, je le sais, mais j'y suis arrivé, non pas comme un a priori, mais après tout ce travail dont nous venons de parler.
France Culture, La Grande Table, Marie Richeux.
Nous savions que le monde ne serait plus le même. Quelques personnes ont ri. Quelques personnes ont pleuré. La plupart étaient silencieux. Je me souviens d'un texte dans les écritures hindoues du Bhagavad Gita. Vishnu essaye de convaincre le prince de faire son devoir. Et pour l'impressionner, il prend sa forme à plusieurs bras et dit « Maintenant je suis devenu la mort, la destructrice du monde. » Je crois que nous l'avons tous pensé d'une façon ou d'une autre.
Vous fermez les yeux pour entendre cette archive de Robert Oppenheimer. On n'a pas de date précise, mais on sait que c'est une archive image qui a été diffusée que très récemment à l'occasion d'un triste anniversaire d'Hiroshima. On y entend cet homme qu'on a souvent appelé le père de la bombe nucléaire. Pour parler avec vous, peut-être Jean-Pierre Dupuis, alors on a parlé de la logique, on a parlé de la rationalité, on a parlé du retour sur ce principe de dissuasion nucléaire. Et puis il y a quelque chose de très profond dans votre texte, qui touche à la pensée du mal. Hein, vous allez vraiment chercher la pensée d'Anna Arendt, celle de Günther Anders et celle de René Girard. Ici, on fait appel à la pensée hindoue, à des textes sacrés du côté de l'Inde. Mais vous, vous allez du côté de la Bible et du côté du sacré. Pourquoi est-ce que cette pensée de René Girard et du sacré qui viendrait nous renseigner sur ce que nous avons entre nos mains lorsque nous avons la bombe nucléaire vous a été utile pour arriver à ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Pierre Dupuis?
Je vais essayer de répondre à votre question, qui est évidemment très, très difficile, mais juste un mot sur Oppenheimer. Il a payé cher le fait de penser trop, lui, hein, et d'avoir, puisqu'il a été accusé de communiste, de communisme, et il a été écarté ignominieusement de la construction, de la conception de la construction de la bombe suivante, la bombe à hydrogène. Bon. Voilà. Il vaut mieux pas trop se poser de questions, effectivement. Alors, René Girard dans tout ça, oui. Il y a une phrase de la Bible que René Girard aime citer. Satan expulse Satan. Et il faut comprendre dans le contexte, c'est Jésus qui prononce ces mots, que ça signifie seul Satan peut expulser Satan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Satan, c'est le mal, disons. Bon, c'est l'accusation, en fait. Bon, mais disons que c'est le mal. Et ce que Girard a montré, c'est que la violence est capable de s'auto-extérioriser, de se mettre à l'extérieur d'elle-même et de se contenir. Se contenir au double sens du mot contenir, avoir en soi et faire barrage à. La violence est capable de faire barrage à la violence. Seul Satan peut expulser Satan. Mais il reste Satan. Bon, donc la violence est toujours là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Girard l'a montré ça sur sa théorie anthropologique de la naissance des religions avec le concept de bouc émissaire, etc. Moi j'ai pas besoin de ça parce que la bombe atomique c'est exactement cela. Ce qu'on dit de la bombe atomique c'est qu'elle ne sert aujourd'hui plus qu'à une chose, à éviter que les autres l'utilisent. Les armes à quoi elles servent? Elles servent ou à se défendre si on est attaqué, ou si on veut attaquer soi-même pour conquérir un territoire ou autre chose, eh bien, à cette attaque. Mais la bombe atomique ne sert qu'à une chose, empêcher que la bombe atomique soit utilisée. Alors, par d'autres, certes. Donc, Satan expulse Satan, ça c'est parfait. C'est l'exemple parfait, je veux dire. Alors, pour aller un peu plus loin, et ça c'est toute la dimension éthique de ce travail, On peut dire qu'il y a, vous parliez tout à l'heure de la raison qui était en contradiction avec elle-même. Ce que la bombe atomique fait, c'est que aussi toutes nos catégories morales, pardon, se mettent en contradiction avec elles-mêmes. Alors, j'essaye de développer ce point rapidement, bien évidemment. Dans une situation de tension, comme celle qu'on a connue, par exemple, et qu'on continue de connaître, peut-être plus que jamais, entre la Russie et les États-Unis. Parce qu'après tout, il n'y a que deux pays, vraiment, qui sont des puissances nucléaires sérieuses. Hein. C'est les États-Unis et la Russie. Bon, dans une situation de tension, il est éthiquement rationnel, au sens de ce qu'on appelle l'utilitarisme, le conséquentialisme, de menacer l'autre de tuer, je sais pas, 100 millions de personnes chez lui. Bon. Il est rationnel de ça. Pourquoi? Parce que c'est cette menace qui va faire que l'autre va se tenir à carreau et qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. Parce que il y a à la fois une situation de rivalité en matière nucléaire et de coopération. Rivalité, puisqu'on a affaire à deux ennemis, mais coopération, parce que l'un et l'autre ont un intérêt commun absolu, qu'il n'y ait pas de guerre nucléaire. Car s'il y a une guerre nucléaire, ils disparaissent tous les deux.
Et en même temps, vous vous levez contre ce que vous appelez le degré zéro de l'argumentation, Jean-Pierre Dupuis, à savoir, oui, bien sûr, c'est efficace, ce système de dissuasion nucléaire, parce qu'il n'y a pas eu de guerre nucléaire.
Oui. Bon, et je fais même référence à la blague classique, le gars qui lance de son wagon de chemin de fer, de la poudre sur la voie, une sorte de poudre sur la voie, et on lui demande, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette poudre? Ben, c'est une poudre chasse-éléphant, et éléphant, mais il n'y a pas d'éléphant sur la voie. Mais voyez que ma poudre fonctionne. Bon, ok. Là, c'est pareil. Je veux dire, il n'y a pas eu. Alors, c'est quand même assez extraordinaire, hein. Comme le dit McNamara dans ses mémoires, et il l'a repris dans un film important, we lucked out. Hein, c'est pas la dissuasion qui a fait qu'il n'y a pas eu de guerre nucléaire, c'est qu'on a eu du bol, tout simplement. C'est une expression vulgaire, enfin vulgaire, pas vulgaire, mais argotique en anglais. Lucked out. On a eu du pot, quoi. Bon, c'est pas du tout la dissuasion. Bon. Mais je reviens à l'argument éthique, si vous permettez. Donc,
très
admettons,
brièvement.
Alors, si on a le temps.
Très brièvement.
Bon, alors, d'accord. Alors, d'un côté, supposons qu'il soit éthique, au nom du conséquentialisme, de faire cette menace à l'autre. Bon. Mais il y a un principe qui est non conséquentialiste, celui qui dit que s'il est mal de faire quelque chose, alors il est mal d'en former l'intention. Bon. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'utilise pas la bombe qu'on est dans le mal.
C'est
il suffit d'en former l'intention.
Faire.
Voilà. Alors, donc, d'un côté, la dissuasion paraît éthiquement rationnel au nom du conséquentialisme, mais de l'autre, à cause de ce principe action-intention...
Elle paraît complètement folle.
Voilà. Donc, l'éthique est mise en contradiction avec elle-même.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Dupuis. « La guerre qui ne peut pas avoir lieu », c'est le titre de votre essai, bon, que vous avez mis entre 30 ans et un été à écrire. C'est publié aux éditions Des Clés de Brouwer. Pour continuer la discussion, vous serez en rencontre, débat, pensée, l'apocalypse. Ce sera au Centre culturel Georges Pompidou à Vincennes, le lundi 11 mars.
We meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling.
On se quitte sur la chanson finale de Docteur Folle Amour. En pleine guerre froide, Stanley Kubrick imaginait un général américain paranoïaque qui ordonnait le bombardement massif de l'URSS. Le film se conclut sur des images d'apocalypse nucléaire, de quoi faire le vœu tous ensemble ce midi, que cela reste pure fiction. Un grand merci à l'équipe de La Grande Table, Maya Neskovic, Antoine Suzarelli, Mathilde Tonfourcade, Oriane Delacroix, Laura Dutèche-Pérez et Henri Leblanc. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Ellig et au son, Jean Frédérics. Le tout sur franceculture.fr, évidemment.
That as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know where.